carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Connaissez-vous le peintre Henri Roire, né en 1833 et mort en 1912, et qui fut à la fois ingénieur de talent, artiste et mécène? Paul Valéry écrivait à son propos en 1933, à l'occasion du centenaire de sa naissance. Ceux qui ont connu M. Henri Roire, sa belle vie, ses nobles goûts, la largesse et la délicatesse de son accueil, sa maison, qui depuis le seuil jusqu'à la chambre la plus haute n'était que peintures exquises, ont connu ce que la seconde moitié du siècle dernier a pu produire en France de plus accompli, de plus solide, de plus raffiné, de plus respectable. Une existence fortement construite et magnifiquement ornée. Vous venez d'entendre le début du texte de Valéry, qui s'achève sur la note suivante. Les quelques figures qu'il a laissées font songer par leur fidélité d'exécution, par l'absence de toute recherche de l'effet instantané, par l'impression de volonté qu'elles communiquent, d'un certain primitif qui aurait vécu au milieu des peintres modernes et qui eût poursuivi un rêve de vérité pure parmi leurs thèses, leur antagonisme, heureux de peindre, insoucieux de gloire. Ce sont des citations extraites de la préface du catalogue de la première exposition qui lui fut consacrée en tant que peintre, et ce, après sa mort. Henri Roire a été l'ami des impressionnistes, leur mécène, et a toujours peint à leur côté. Il a mis cependant sa propre peinture en retrait. Son nom est surtout attaché à son extraordinaire collection de tableaux anciens et plus modernes, ceux de ce 19e siècle à peine clos. L'ensemble fut mis en vente à sa mort en 1912, ainsi des toiles de Manet, Degas, le fameux tableau de Gauguin « Nave Nave Mahama », qui signifie « jour délicieux » en tahitien, des tableaux de Monet, de Berthe Morisot, de Renoir, la liste est longue, Sisley, Pissarro, quittèrent les murs de sa propriété de la Queue-en-Brie en région parisienne. Cette année, en 2012, le musée Marmottan-Monet, temple des toiles impressionnistes à Paris, rend hommage à son œuvre peinte avec une exposition dans les très beaux salons du musée, qui est l'ancien pavillon de chasse d'Edmond Kellermann, et c'est d'ailleurs ce qui fait l'un des grands charmes de ce musée, et qui abrite la fameuse toile de Monet, Impression soleil levant. L'œuvre peinte d'Henri Roire est exposée pour la deuxième fois depuis les années 30. C'est là l'occasion rare de découvrir la peinture d'un témoin proche de l'aventure des impressionnistes. Et le regard de Paul Valéry, lié à la famille Roire, et rappelons-le, membre de l'Académie française, a probablement sauvé de l'oubli cette œuvre qu'on redécouvre aujourd'hui. Pour l'instant, retrouvons Jean-Marie Roire de l'Académie française. Précisons que l'académicien publie en ce moment « Napoléon ou la destinée », un essai où il évoque l'homme de toutes les victoires, qui était aussi un homme d'échecs, un sujet historique et romanesque en soi. Napoléon, disant de lui, « Quel roman que ma vie !» Pour l'heure, il nous présente son arrière-grand-père, Henri Roire. Jean-Marie Roire, avant de commencer, quelle est votre émotion de voir réunis d'abord tous les tableaux de cette collection qui depuis longtemps n'a pas été présentée au public puisqu'il n'y a eu que deux fois où on a pu admirer ces tableaux en 1912 et en 1933. Donc quelle a été votre émotion de les voir réunis au sein du musée Marmottan pour cette exposition consacrée à l'œuvre peinte de Henri Roire?
Bien sûr, c'est quelque chose d'émouvant, même si j'en connaissais un certain nombre, puisque tout l'œuvre de... Henri Roire était resté dans la famille, sauf deux tableaux qui sont au Louvre et un autre qui est au musée de Pau. J'en possède d'ailleurs un certain nombre, mais j'en ai découvert d'autres. Et je trouve que c'est une justice qui est rendue à un homme qu'on connaissait surtout comme collectionneur, puisque, vous savez, il avait une fabuleuse collection, 47 coraux. Mais on le connaissait comme collectionneur, on le connaissait comme industriel, comme l'inventeur du pneumatique. Et comme l'inventeur du procédé de réfrigération de la morgue et d'un certain nombre de bicyclettes. Enfin, il avait beaucoup inventé de choses. Mais son œuvre, il avait exposé avec tous les impressionnistes. Il avait été l'élève de Corot et de Millet au moment où il préparait l'école polytechnique. Et c'était, je trouve, justice de montrer pour une fois son œuvre qui avait été très estimée, notamment par Paul Valéry, qui a écrit une préface à l'exposition, justement, la première exposition de 1933, c'est l'anniversaire, c'est le centenaire de sa
naissance. Voilà. Vous situeriez comment l'œuvre d'Henri Roire dans cette grande famille à laquelle il appartenait, celle des impressionnistes, comme une figure marquante, essentielle, comment le situer pour les
auditeurs ? Je crois qu'il a été très marqué, justement, par l'enseignement de Corot. Il est très proche de Corot. Disons, c'est un impressionniste très sage, même si il a beaucoup insisté sur les effets de lumière, les effets d'eau. C'est un homme qui adorait les sous-bois, les lumières des sous-bois et en même temps le scintillement de l'eau, que ce soit à Venise ou sur les rivières. Disons, il est dans une tradition assez classique et je le rapprocherai plutôt de Millet et de Corot et bien sûr, il était très lié avec Degas. Donc il est
l'ami de la famille.
Voilà, et donc il y a une influence certainement de Degas, mais enfin, disons, pour ne pas le comparer à des gens incomparables, je pense que c'est un impressionniste, mais qui n'est pas caractéristique de l'impressionnisme. Voilà. Je crois qu'il a sa personnalité, et que sa personnalité, et il pourrait se rapprocher aussi de Kals, un autre impressionniste qui a exposé avec les impressionnistes, mais disons, il n'y a pas cette explosion de lumière qu'il y a chez Monet ou chez Van Gogh.
Il a une couleur pourtant de prédilection qui est le vert, enfin les verts, parce que sur ses peintures, sur les extérieurs de la propriété de la queue en brie, on sent là quand même l'impressionnisme à cœur.
Je crois que ce qu'il rapproche des impressionnistes, c'est son goût de la nature. C'est un homme qui, étrangement, était attiré par la nature dans sa propriété de la queue en brie, mais sur... Il allait vers le paysage, et d'ailleurs, il y a beaucoup de lettres avec Degas, où Degas se moque très gentiment de lui, en lui disant « Pourquoi tu te mets les pieds dans la rosée, tu vas attraper froid, tu vas attraper un rhume, tu ferais mieux de rester dans son atelier, comme faisaient les primitifs qui peignaient des paysages à leurs fenêtres. » Il adorait, je crois, ce caractère très naturel. Et en cela, vraiment, il est impressionniste. Il allait sur le motif.
Sur le motif, et moins sur le paysage urbain, hein. Ça c'était moins évident pour lui par
oui.
rapport aux impressionnistes.
Oui, on peut dire que c'est vrai qu'il y a très peu de paysages urbains.
Voilà. Un peintre presque aussi de l'intimité quand il est dans les intérieurs, parce que c'est très feutré.
Il a peint quelques natures mortes, mais quelques-unes, notamment une, un bouquet de fleurs qui est magnifique, qui est exposée, mais il a surtout peint l'intérieur de sa propriété de la queue en brie, l'intérieur de ses maisons, de son atelier à Paris, rue de Lisbonne. Donc c'est un homme, en effet, qui aimait l'intimité et les portraits sont surtout consacrés des gens de sa famille.
Est-ce qu'on peut dire, ou ça serait trop exagéré, que de le qualifier de modeste dans sa démarche de peintre ?
Ah oui, ça, alors c'est un trait un peu familial. C'est que cet homme qui était, à beaucoup d'aspects, tout à fait génial, était un homme dont tout le monde reconnaît la modestie. Proust, qui en parle de sa modestie. Paul Valéry également. Et c'est un trait qu'il a légué, on pourrait dire, à ses enfants, parce qu'Ernest est extraordinairement modeste. Augustin, mon père, était aussi très très modeste. Même, ça confinait vraiment au doute de soi, à une sorte d'hyper-modestie. Et ce sont des hommes qui ont à la fois consacré leur vie à la peinture et curieusement qui ont très peu exposé.
Lui-même a cessé d'exposer au salon des impressionnistes là, en 1880.
Oui, au moment de la rupture, il y a eu une rupture. Il était très ami de Degas et il a toujours partagé complètement les idées de Degas. Et plutôt, il n'était pas question de se brouiller avec Degas, donc il a suivi
Degas. Il a suivi son ami. Est-ce que c'est aussi une éthique pour lui que de ne pas avoir exposé, de ne pas être rentré dans ce jeu-là?
On est très loin de la situation actuelle,
mais il a peint pour lui, pour ses proches.
Tout artiste peint à la fois pour soi et pour les autres. Mais c'est une question de degré. Il y a des peintres qui ne peignent que pour les autres, mais je ne crois pas qu'il y ait de peintres qui ne peignent que pour soi. Je crois que c'est simplement un des traits de son caractère. Il s'est surtout consacré aux autres, puisqu'il a acheté beaucoup de tableaux de l'impressionniste.
Il était
le premier acheteur de Manet, de Gauguin. Mais il y avait une sorte de réserve. Et de la même façon, Ernest ou Augustin, mon père, donc, étaient tous... Ils attendaient, au fond, le jugement de la postérité. C'était des hommes dont l'avis de leurs contemporains, bien entendu, les intéressait, ils l'attendaient, mais ils ne le recherchaient pas. Ils attendaient, au fond, le jugement de la postérité. Et ce qui leur importait, surtout, c'est de se consacrer à leur œuvre sans cette exigence de rencontrer un public.
Est-ce qu'ils seraient un petit peu déroutés aujourd'hui dans la façon dont les artistes jouent avec le public, avec l'argent, avec l'exposition,
ils sont complètement en dehors,
renommée On est aux antipodes de
voilà. Et je veux dire, moi-même, c'est vrai que j'en ai tiré des conclusions J'ai essayé de réconcilier un peu dans ma carrière d'écrivain, si on peut appeler ça une carrière, j'ai essayé de rencontrer la société et de ne pas la nier. Et c'est vrai que quand on est à l'Académie française, c'est vrai qu'on a recherché une forme de reconnaissance sociale. Et je pense que c'était pas du tout leur but, et ils étaient tout à fait en dehors des académies. Et d'ailleurs, il y a une anecdote. Le jour où il reçoit la Légion d'honneur, il est officier de la Légion d'honneur, il fait des gravures, et il a noté avec ses amis, et il passe sa soirée à fêter la Légion d'honneur en faisant de la gravure. C'est pour vous montrer à quel point...
Il n'est pas dans les cocktails.
Il n'est pas dans la mondanité, ni dans la dispersion sociale. C'est un homme qui est dans la vérité de l'art.
Cette vérité de l'art, ça a marqué toute votre famille, de génération en génération, votre famille de peintres. Vous avez pris vos distances un peu avec la peinture, tout en disant qu'au début, elle vous avait peut-être fait souffrir, mais combien elle vous avait révélé aussi, par votre goût pour l'écriture et pour les mots, pour un autre chemin. Aujourd'hui, quel regard vous portez ça, c'est une histoire que vous avez racontée dans votre roman « Une jeunesse à l'ombre de la lumière hein, » en 2000, et puis dans un autre ouvrage « Les Roirs, une famille au cœur de l'impressionnisme » chez Gallimard. Aujourd'hui, en 2012...
Vous savez, je suis très heureux d'être né dans une famille d'artistes, parce qu'il soufflait un vent atlantique, si vous voulez, il y avait un vent océanique. On était toujours dans des hauteurs, on était toujours en train de parler de Léonard de Vinci, de notre famille élargie, parce que c'était tous les grands peintres et les grands écrivains. On était entre Baudelaire, Manet, Corot. Mais personnellement, si vous voulez, je n'ai pas le sentiment, disons, de revendiquer cet héritage. Je crois que chacun fait ce qu'il peut pendant son existence et on doit tout uniquement à son mérite personnel. Donc je ne suis pas du tout... Il se trouve que j'écris un peu l'histoire de ma famille, pas l'histoire de ma famille, mais j'ai évoqué ces histoires de famille, mais j'ai horreur des gens qui, en fait, qui se dissimulent derrière une histoire familiale. Je crois que ce qui est important, c'est ce qu'on fait soi-même, et de faire ce qu'on peut, le mieux qu'on peut, et ça a été mon ambition. Mon ambition, ça a été d'essayer par moi-même, par la littérature, non pas de me séparer de cette famille, parce que je suis resté finalement dans le domaine artistique, et un jour, il y a une dame qui est venue me voir, qui m'a dit « Vous savez, vous croyez avoir fui votre famille ?» Mais en fait, dans vos livres, il y a surtout des portraits et des paysages.
Alors, le dernier portrait que vous brossez, d'ailleurs, votre dernier livre, c'est Napoléon, une destinée. Quel rapport Napoléon avait-il avec les peintres, d'abord, et avec votre famille?
Eh bien, Napoléon avait de très bons rapports avec les peintres, puisqu'il adorait David. Et d'ailleurs, son grand regret, c'est que David n'ait pas voulu l'accompagner en Égypte. Et beaucoup de personnages, sa famille, Isabée a joué un très grand rôle, enfin, beaucoup de peintres ont joué un grand rôle. Et alors, ce qui est curieux, c'est que de ma famille, évidemment, a été associé à un personnage fameux de l'épopée napoléonienne, c'est l'ébéniste Jacob de Malter, qui était le descendant du Jacob du XVIIIe siècle. Et moi, j'ai vécu au milieu des meubles à sphinges, puisque Henri Roy avait épousé la petite fille de Jacob de Malter. Donc, c'est vrai que j'ai toujours entendu parler de l'Empire, et j'avais toujours vu autour de moi des meubles qui rappelaient cette époque.
Henri Roy n'aurait jamais peint Napoléon, pas Napoléon bien sûr, chronologiquement, oui, mais je veux dire, ne se serait pas prêté à la peinture d'histoire.
De ce point de vue-là, il se sépare beaucoup de David. C'est le retour, disons, à, on pourrait dire, retour à la nature, voilà, retour à la nature. Et c'est ce mouvement qu'il y a eu avec Millet, avec Corot, on revient à l'étude de la nature, à la description de la nature, et en effet, il est tout à fait éloigné de la peinture des peintres d'histoire, qu'il pouvait admirer par ailleurs, bien que dans sa collection, je ne crois pas qu'il y ait eu un tableau de David, mais il avait des Chardins, il avait même un Velázquez qui était magnifique.
Et on a très peu d'aquarelles de lui dans l'exposition, mais
c'est dommage.
Pourtant,
c'est dommage parce que c'est un très grand aquarelliste et un très grand graveur. C'est vrai que sur ce plan-là, ses gravures sont magnifiques et les aquarelles sont vraiment, je trouve que c'est un très très grand aquarelliste, c'est un très bon peintre. Mais ces aquarelles, certainement, ça méritera une autre exposition.
Une prochaine exposition. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marie Roy.
Merci.
Et à très bientôt.
Merci.
Retrouvons maintenant Jean-Dominique Rey, lui aussi arrière-petit-fils du peintre Henri Roire. Il est le commissaire de l'exposition Henri Roire, l'œuvre peinte 1833-1912, présentée au musée Marmottan-Monet du 13 septembre au 11 novembre, et il est l'auteur du catalogue de l'exposition publié par les éditions Hazan. Jean-Dominique Rey est critique, poète et écrivain. Parmi ses livres, citons « La traversée du vent »,« L'amour s'arrête à Stendhal » et de nombreuses monographies de peintres, dont Berthe Morisot, Manet ou les Nymphéas, Fra Angelico et l'art sacré aujourd'hui. Jean-Dominique Rey, d'où lui vient le goût du dessin et de la peinture, une pratique dont il ne s'est jamais dessaisi?
Il a commencé à dessiner à Polytechnique, où il a eu comme professeur un certain Faucillon, dont je n'ai jamais réussi à savoir si c'était le descendant ou l'ancêtre plutôt d'Henri Faucillon. Enfin, ça n'est pas impossible. Et en tant que polytechnicien, il était poussé en quelque sorte à dessiner beaucoup et à dessiner de façon très précise.
Oui, des plans, des choses comme ça.
Oui, des plans, mais aussi des édifices, etc. Et il a donc beaucoup dessiné très tôt. Et toute sa vie, il a toujours eu sur lui un carnet. Alors ça, les carnets ont la chance d'être datés, au moins par année. Donc ça permet quelquefois de dater un tableau qui a été fait d'après un de ses dessins. Et ce qu'on n'a peut-être pas encore dit, et qui est important, c'est que Roy, à la fois par son métier d'ingénieur, directeur d'une grande exploitation, et puis aussi par goût, est un voyageur, est un espèce de nomade. Moi, je l'appelle un peintre nomade.
Voilà.
Dans la mesure où il adorait bouger, il adorait voyager, et pas seulement pour son métier, mais aussi pour son plaisir.
Vous écrivez que c'est un peintre nomade, en parlant de lui, qu'il a beaucoup voyagé. Comment ces voyages ont nourri sa peinture? Parce qu'alors, il a voyagé en France, et puis il a voyagé aussi
Il a voyagé un peu en Italie, un peu en Hollande, un peu en Espagne aussi, moins, mais enfin, bon.
Alors, il peint à l'extérieur, il peint sur le motif.
Il peint beaucoup à l'extérieur. Alors ça, je le rappelle, je crois, dans le texte, ce qui est important, à l'époque, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, quand un peintre voulait faire un tableau à l'extérieur, il fallait qu'il ait presque une charrette avec tout le matériel. Tandis qu'au XIXe siècle, on a inventé les tubes de couleur métalliques, c'est-à-dire de petite dimension. Donc, c'était beaucoup plus simple. Et Roire avait toujours, quand il partait en voyage, un carnet de dessin, une boîte d'aquarelle et une palette à pouce.
Pour peindre,
pour
justement.
Pour pouvoir peindre facilement.
Quand il voulait. Vous diriez que c'est un peintre paysagiste, plus paysagiste que portraitiste, ou est-ce
oui,
que,
dans la mesure justement où c'est un peintre nomade, un peintre de l'extérieur, c'est plus un peintre paysagiste. Bon, et puis à cette époque, il y a tout de même une redécouverte du paysage par la lumière. Ça, c'est l'apport impressionniste qui est important. Bon, les portraits, il les fait quand il est immobile, quand il est soit à la Cambrie, soit chez lui, rue de Lisbonne. Et Degas l'admirait beaucoup de se mettre à peindre à 6 heures du matin après avoir voyagé toute la nuit.
Est-ce qu'on peut évoquer maintenant son amitié avec Degas?
Avec Degas, oui. Alors, l'amitié avec Degas commence très tôt, si on peut dire. Ils sont ensemble au lycée, enfin, ce qui est l'équivalent du lycée, à Sainte-Barbe, enfin bon, ce qui est devenu Lille-Grand,
oui,
ça a changé.
Après.
Les lycées changeaient d'appellation selon les régimes, comme les grandes écoles aussi. Polytechnique s'est appelé différemment, etc. Bon, donc, ils rencontrent Degas sur les bancs de l'école. Ils sont très, très petits. Tous deux sont de vrais Parisiens, nés à Paris. Henri Roire est né rue Saint-Honoré, donc très près d'ici. Degas est né rue Saint-Georges, donc c'est pas très loin. Donc, ils se sont vus à cette époque. Et puis après, ils se sont perdus de vue. Degas part en Italie, etc. Et puis arrive la guerre de 70. Bon, Roire avait fait Polytechnique, avait fait... Bon, donc, quand il y a la guerre de 70...
Et que Paris est assiégé.
Et Paris est assiégé et il est chef de batterie, je ne sais plus comment on dit, à Vincennes. Il a sous ses ordres comme ça quelque chose. Et un beau jour, parmi ceux qu'on lui attribue, qu'on lui envoie, il y a Degas. Et donc, il tombe dans les bras l'un de l'autre, bien sûr. Il se retrouve là et à partir de ce moment-là, ils ne se sont plus quittés, ils se sont vus toutes les semaines. Alors, Degas fait assez vite un portrait de lui qui est dans l'exposition, qui est le premier des portraits. Alors, il y a un petit tableau de Degas où il y a les autres personnages qui étaient dans cette batterie à Vincennes.
Ses autres compagnons.
Oui, mais sur cette toile ne figure pas Roire. Peut-être parce qu'il était occupé, il avait autre chose à faire. Bon, Et je pense qu'il a fait ce tableau à peu près dans le même esprit que les autres, peu de temps après. Si vous voulez, là, dans cette page, j'ai voulu juxtaposer un peu le premier portrait et sans doute le dernier portrait. Mais il y a plusieurs portraits parce que Degas a fait un portrait de roi avec sa fille et dans lequel Degas reproduit, repeint un tableau de roi. Parce que Degas collectionnait ses amis beaucoup et donc accrochait les tableaux de ses amis chez lui. Et puis, il y a le grand portrait très connu, qui est aux États-Unis aussi, et qui est le portrait d'Henri Roir devant son usine. Alors, on a beaucoup dit que c'était l'usine de Montluçon, mais en fait, c'était l'usine qui était dans le 20e arrondissement, avec une grande cheminée. Alors là, ce tableau a été exposé par Degas au cours des expositions impressionnistes.
Degas est devenu l'ami de la famille, l'intime aussi de la famille, au point de suggérer ou de proposer des alliances matrimoniales entre les...
Oui, ça part de suite. Bon, Degas adorait faire les mariages. À la fin de sa vie, il ne s'est jamais marié, et donc il adorait faire des mariages. Donc il a fait se rencontrer Ernest, donc, qui était son seul élève, avec la fille de Berthe Morisot, parce qu'il était très lié avec Berthe Morisot. Berthe Morisot, qui a été un peu méconnue pendant longtemps, était très appréciée des peintres du groupe impressionniste. Chacun d'eux avait un tableau de Berthe Morisot chez lui.
Degas avait des tableaux de Roir ?
Oui, il avait plusieurs tableaux de Roir. Alors, il avait entre autres celui qu'on expose ici, et qui est la scène aux environs de Rouen.
Oui. Un tableau qui n'est pas dans les tonalités habituelles, dans la palette habituelle de Roir.
Un tableau, mais qui est assez différent. Et donc, il représente... Alors là, l'industriel était certainement très concerné par les bateaux, d'autant qu'il avait inventé un bateau à moteur, etc., enfin, à l'époque, qui sera réalisé, qui sera diffusé, si je puis dire. Donc, il fait ce tableau, et Degas avait acquis ce tableau, alors est-ce qu'ils se sont donnés ? Les rapports étaient souvent... Degas interdisait à Roir d'acheter un de ses tableaux. Roir le faisait tout de même quelquefois en douce, si je puis dire.
Pourquoi le lui interdisait-il ?
Parce qu'il estimait que c'était un ami, qu'il avait à lui donner un tableau, mais non pas à acheter. Bon. Et Degas n'était jamais content d'un de ses tableaux. Il trouvait toujours qu'il était inachevé, qu'il était... Donc il y a la fameuse anecdote d'un tableau de Degas que Roir accroche dans son salon, où donc Degas venait toutes les semaines pour dîner. Et au cours du dîner, Degas tombe sur le tableau et commence à le regarder, commence à tiquer un peu et à regarder de plus près. Et à la fin, il lui dit « Bon, écoute, si ça t'ennuie pas, je te le reprends et puis je le retouche un peu et je te le rapporte. » Et puis une fois chez lui, Degas le retouche tant et si bien qu'il le gâche complètement. Et il se dit « Bon, ben, je ne peux pas lui rendre comme ça. » Alors Degas est venu la fois suivante avec sous le bras, si je puis dire, les danseuses à la barre. Qui va être le tableau qui fera la somme record de la vente
de collection 1912. En 1912. Et là aussi, il y a une autre anecdote à propos de vente.
Il y a plusieurs anecdotes. Et donc, Roir a, à partir de cette époque-là, enfermé ce tableau sous verrou. Enfin. Donc, Degas ne pouvait plus le remporter.
Le reprendre. Degas s'est moqué de celui qui a acheté le tableau en 1912.
Il a dit c'est un fou de
mettre une somme pareille dans cette œuvre.
Mais donc, pour revenir à ce tableau,
de la scène
je pense
près de
que Roir a dû lui donner parce que Degas lui a dit « Bon, ça me plaît ce tableau ». Et donc, Degas l'a accroché chez lui. Et puis, à la vente de Degas en 1917, à la vente de l'atelier après le décès de Degas, le tableau a été racheté par Louis, et chez lequel il est resté à nouveau. Contrairement à beaucoup de peintres de Barbizon, qui peignaient les sous-bois, qui peignaient les arbres
ce qu'il a fait à ses
débuts. De l'intérieur de la forêt, lui mettait toujours une certaine distance. Bon, c'est peut-être une question d'œil, c'est peut-être une question de goût. Il mettait toujours une distance entre les arbres et lui. Et sur ce thème des arbres qui étaient sans doute au fond du jardin de la Colombrie, il a fait plusieurs versions. Et il y en avait une que, personnellement, je trouvais peut-être la plus belle et qui, malheureusement, a été détruite dans un incendie il y a une vingtaine d'années. Mais il a peint plusieurs fois ce thème-là, cette prairie avec les arbres, à une certaine distance, et je pense que ça, c'est un des plus beaux tableaux de l'exposition.
Sa palette, pour sa vue
pour sa palette, comme synthèse des arbres, comme ceci. Mais ceci étant dit, le tableau qui est au-dessous est aussi très, très beau. Alors là, si vous voulez, on voit bien son rapport à l'impressionnisme.
Oui, là vous parlez du tableau qui est l'arbuste devant la maison de la queue en brie,
absolument.
Qui est un plus petit tableau.
Qui est un plus petit tableau, mais très beau, qui a une lumière très remarquable, et où on voit davantage son lien à l'impressionnisme. Parce que, comme je l'ai dit dans le livre ou dans le texte, Roire est plus un compagnon de route des impressionnistes qu'un peintre impressionniste, dans la mesure où il a un côté plus réaliste à certains moments, et où il n'est pas attaché au dogme de l'impressionnisme, tout en étant influencé par ça. Bon, quand il s'agit des ombres, malheureusement on n'a pas le tableau ici de la vue de Melun, avec la statue avec une femme de dos et une autre assise sur la prairie, qui est au musée d'Orsay. Et dans ce tableau a été daté 1880, longtemps sur les rares catalogues où il est mentionné. Et en définitive, je pense que c'est l'un des tableaux qu'il a exposé à la première exposition impressionniste. Dans la mesure où, là, si vous voulez, l'une des redécouvertes de l'impressionnisme, c'est de s'apercevoir que les ombres n'étaient pas noires. Il y avait un vers de Victor Hugo dans La fin de Satan que Valéry aimait beaucoup, c'est lui qui me l'a appris, si je puis dire. « L'ombre est noire toujours, même tombant des cygnes ». Et en fait, les impressionnistes se sont aperçus que l'ombre, et ils étaient les premiers depuis les Romains, peut-être depuis les peintres romains, que l'ombre n'était pas du tout noire, mais qu'elle était colorée. Et donc, si vous voulez, ce tableau a fait l'objet d'une critique de Leroy, qui était un critique de l'époque impressionniste, dans lequel il dit le torchonnet des ombres, etc. Et d'après cette description, je crois qu'on peut dater ce tableau non pas de 80, mais de carrément 74. Donc, c'est lui... Très en amont, et aussi donc à la première exposition impressionniste.
C'est-à-dire que ça permet de situer aussi, cette fois, Henri Roire comme vraiment un acteur aussi de l'impressionnisme.
Oui, alors
un
acteur dans ce cas-là. Alors que dans d'autres tableaux, il prend une distance.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Dominique Rey, d'être venu évoquer... la peinture d'Henri Roire, ici à Canal Académie. Vous venez d'entendre Jean-Marie Roire de l'Académie française et Jean-Dominique Rey, tous deux arrière-petits-fils du peintre Henri Roire et cousins. Jean-Marie Roire, dans son roman « Une jeunesse à l'ombre de la lumière », en 2000, évoquait l'amour de sa famille pour la peinture. En 2001, il avait également publié « Une famille dans l'impressionnisme », un ouvrage qui intègre près de 130 tableaux, dessins, aquarelles réalisés par ses ancêtres, puisque sur ses 5 enfants, Henri Roire eut un fils peintre, Ernest, et que le père de Jean-Marie Roire, Augustin, était aussi peintre. L'exposition est à voir au musée Marmottan-Monet jusqu'au 11 novembre et retrouvée aux éditions Hazan, le catalogue de l'exposition écrit par Jean-Dominique Rey. Si vous voulez poursuivre sur ce sujet, vous pouvez retrouver de nombreuses émissions dans les archives de Canal Académie consacrées aux impressionnistes.